Bonjour Daniel Aber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme chaque semaine, comme tous les lundis, nous avons droit à nos conversations et on sort donc de quelques semaines intenses en géopolitique, marquées par le point d'orgue qui était l'Assemblée générale de l'ONU. Nous sommes revenus sur ces événements lors des précédentes conversations, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur Israël. On a parlé du corridor Israël-Arabie Saoudite passant par plusieurs pays. Les résultats ont été surprenants, pardon. Israël a tiré son épingle du jeu lors de ces différents sommets.
Oui, enfin, c'est ce que j'avais indiqué. On peut essayer de l'approfondir ensemble. D'abord, une remarque. Au moment, il y a un paradoxe. Au moment où Israël voit toutes ses énergies et ses intelligences concentrées sur un problème intérieur, la fameuse réforme judiciaire, il se passe des choses incroyables dans le monde qui offrent des opportunités extraordinaires pour Israël. Une amélioration de sa situation géopolitique. C'est pas rien, ça, pour Israël. Et donc, on espère qu'il reste un peu de temps chez les dirigeants. C'était le cas pour Netanyahou, puisqu'il a pris le temps d'aller à toutes ces réunions. Et donc, essayons de sortir de ce paradoxe et essayons de regarder, du point de vue d'Israël, ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde est d'une certaine manière assez révolutionnaire. Qu'a montré l'Assemblée générale de l'ONU? C'est que la majorité des pays du monde, là, il y a 200 pays dans le monde, il y en a bien 150 qui disent cette guerre en Ukraine, cette confrontation entre les États-Unis et la Chine, où les États-Unis essayent d'attirer tous ses amis, y compris Israël d'ailleurs, hein, tout ça, disent ces 150 pays, c'est non seulement une perte de temps, mais c'est un gaspillage faramineux de ces milliards de dollars dont on a besoin, nous, pour lutter contre la crise économique qui est le résultat de cette guerre et de la confrontation, pour nous développer enfin parce qu'on a besoin d'émerger, de rattraper notre retard, et puis surtout pour lutter contre le changement climatique, parce que là aussi, le réchauffement climatique, c'est nous, les pays pauvres, qui vont être les plus touchés. Donc c'est un vrai cri d'alarme qu'ont lancé au fond la majorité des pays du monde. Ne nous agacez pas avec des condamnations de la Russie pour tout ça, c'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est le développement. C'est la lutte contre le réchauffement, c'est le problème planétaire. Et tous ces milliards que vous gaspillez, avec la reprise en plus de la course aux armements, qui mobilise aussi des fortunes, tout ça, ça va nous manquer. Et Israël, d'une certaine manière, et ça s'est marqué par au fond, les prestations de Zelensky, quand il a parlé à l'Assemblée générale, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas écouté, parce que ce n'était pas le problème. Et quand il a rencontré Netanyahou, Netanyahou lui a reconfirmé qu'il n'était pas prêt à livrer des armes. Et donc, du coup, Israël se retrouve dans le camp de ceux qui ne veulent pas choisir un camp. Alors qu'il est dans le camp américain pour tout un tas d'autres raisons. Donc voilà quelque chose qui, quand même, est très important et révolutionnaire. Vous avez mentionné aussi, vous avez eu raison, ce projet tout à fait étonnant d'une liaison logistique entre l'Inde et l'Europe qui passerait par le Moyen-Orient, où on voit que l'Europe, la voix de l'Europe était représentée par le président américain. On se demande ce qu'il faisait faire là. Mais au fond, la principale conséquence de ce projet, c'est de mettre le Moyen-Orient au cœur du sujet. Et d'ailleurs, en plus, en citant nommément deux pays, l'Arabie Saoudite et Israël, qui sont justement en train de négocier pour arriver peut-être à un accord qui serait lui alors complètement révolutionnaire. Donc là aussi, vous avez une montée en puissance du Moyen-Orient. Et avec aussi cette volonté des pays du Moyen-Orient d'avoir de l'autonomie stratégique, de ne pas être lié à tel ou tel camp. Et Israël, avec les accords d'Abraham, avec l'accord qu'il passera avec l'Arabie Saoudite, va se trouver dans ce camp de gens qui veulent à la fois pas choisir, mais qui devront quand même choisir, parce qu'au bout d'un moment, il faudra bien que les pays, par exemple arabes, aient des garanties de sécurité. Et seuls les Américains peuvent le leur donner. Donc, on est dans un jeu extrêmement complexe. Et donc, je reviens à ce paradoxe. Israël a besoin de payer beaucoup d'attention à ce qui se passe dans le monde parce que c'est en train de changer la situation géopolitique pour Israël.
Justement, au fond, Daniel Aber, en quoi cela est bon pour l'État hébreu?
Alors, c'est bon pour l'État hébreu pour au fond deux raisons. La première, c'est que de plus en plus, le Moyen-Orient, où Israël est là, hein, il est là, et il va rester là, est en train de devenir un endroit hyper stratégique pour tout le monde, hein. Si vous pensez au projet chinois des nouvelles routes de la soie qui relie la Chine et l'Europe, ça passe par le Moyen-Orient. Si vous écoutez ce qu'a dit Biden, Modi et Ben Salman quand ils ont signé leur mémorandum à Delhi sur ce projet Inde-Moyen-Orient-Europe, ça passe aussi par le Moyen-Orient. Donc, le Moyen-Orient prend une importance très importante. Ce Moyen-Orient, aujourd'hui, il est occupé par trois puissances, l'Iran, la Turquie, les pays arabes. Et Israël est au milieu de tout ça et peut faire pencher la balance. Et le fait qu'il soit proche des pays arabes sunnites, ça va faire pencher la balance vers le côté arabe sunnite. Et donc, ça peut entraîner la Turquie en coopération vers eux. Et on aura un Iran isolé, Iran qui est quand même la menace non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour tout l'Occident. Donc, ça c'est une configuration qui est plutôt favorable à Israël. La deuxième, c'est que si le Moyen-Orient devient aussi central que je le décris, Israël va être au fond courtisé par toutes les grandes puissances mondiales qui ont besoin d'être présents au Moyen-Orient. On l'a vu avec les États-Unis qui ont inventé les accords d'Abraham. En tout cas, qui ont beaucoup poussé, parce que pour les Américains, c'est une solution extraordinaire à leur dilemme, comment être au Moyen-Orient sans y être. Ben, ils y sont, grâce à Israël et grâce à l'accord avec l'Arabie, avec les Émirats et Bahreïn, peut-être demain avec l'Arabie saoudite, les Américains n'auront qu'à donner des garanties de sécurité à cet ensemble pour pouvoir être présent sans être, comme on dit, avec des hommes sur le terrain, des boots on the ground, ce que les Américains aujourd'hui tentent d'éviter. On voit bien que la Russie regarde avec beaucoup de suspicion cet Iran qui crée cet axe chiite au nord d'Israël, parce que ce qui est au nord d'Israël est aussi au sud de la Russie. Et si on regarde l'histoire, les rapports entre la Russie et l'Iran n'ont pas toujours été très bons. Et donc, la Russie cultive une certaine forme d'amitié avec Israël, et Israël a besoin de la Russie. La preuve, c'est qu'elle ne prend pas parti dans la guerre en Ukraine. L'Europe, qui a toujours eu un rêve d'euro-méditerranée et qui a toujours voulu être présent au Moyen-Orient, une de ses façons d'être présent, c'est effectivement de participer d'une façon ou d'une autre à ces accords d'Abraham. Et donc Israël, qui est un allié de l'Europe, qui fait partie du marché commun presque, puisqu'ils ont des accords de libre-échange, qui fait partie des recherches de développement, des grands projets de développement israélien et dans les projets européens. L'Europe a besoin d'Israël pour être présent également au Moyen-Orient. Et puis, il y a la Chine. La Chine qui se présente au Moyen-Orient comme l'ami de tout le monde, des Iraniens, des Turcs, des Arabes et d'Israël, finalement devra quand même montrer à un moment donné une certaine préférence. Et donc, si ces accords d'Abraham peuvent s'élargir à l'Arabie saoudite, si la Turquie revient à des positions plus conformes au fait qu'il fait partie de l'OTAN, on aurait là de quoi convaincre la Chine que le bon camp, c'est le camp des sunnites et d'Israël et pas l'Iran. Et donc, on mettrait fin à cette sorte d'alliance épouvantable qui s'appelle Russie-Chine-Iran, qui aujourd'hui fait la guerre en Ukraine, qui n'est que, je pense, que temporaire. Et voilà comment se recompose sous nos yeux un ordre mondial. Et il y aura encore d'autres changements dont on aura, je pense, l'occasion de reparler dans une conversation. Mais ça met Israël en position centrale et en position d'arbitre et peut-être en position de pont. De lieux où pourront se trouver forgés un certain nombre de compromis et Israël pourra aider. Donc voilà pourquoi cette position actuelle est plutôt bonne pour Israël.
Justement, Daniel Haber, il nous reste malheureusement que 2 minutes pour terminer ces conversations cette année. Vous avez parlé de recomposition de l'échiquier mondial. Quel est le rôle d'Israël dans cette recomposition?
Eh bien, pour l'instant, il y a plus d'ordre mondial. L'ordre mondial de 1945, aujourd'hui, il a explosé avec la guerre en Ukraine. Il avait déjà été fissuré par la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Mais quand même, et les États-Unis et la Chine souhaitent le rétablissement d'un ordre mondial. La Chine, même si Xi Jinping n'était pas présent à l'Assemblée générale, la Chine compte quand même sur l'ONU pour surtout être refondée. Et d'ailleurs, Biden lui a donné des gages pendant sa conférence, son exposé devant l'Assemblée générale. Biden a dit faut restructurer, faut refonder les Nations Unies, peut-être élargir le Conseil de sécurité. Donc, il est entré dans la voie d'une renégociation de l'ordre mondial avec la Chine. Et comme c'est très difficile pour ces deux pays de se parler, un ensemble de pays tiers vont se présenter comme des intermédiaires, des go-between, et Israël qui parle aux deux parties, qui a beaucoup d'habiletés diplomatiques, je pense, jouera un rôle important, peut-être pas tout seul, peut-être avec l'Europe, peut-être avec des pays comme le Japon ou d'autres, mais je pense qu'on aura besoin d'Israël à un moment donné pour forger ce nouvel ordre mondial qui n'est pas pour demain, mais qu'il faudra bien rétablir un jour.
Eh bien, merci Daniel Aber pour cette lumière sur le rôle d'Israël dans ces dernières semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À bientôt.